7:04.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Ailleurs dans le monde, bonsoir Michael Thébault.
Et bonsoir Nicolas.
Menu très musical ce soir avec deux haltes à Budapest en Hongrie, mais d'abord à Hambourg, en Allemagne.
Et oui, Hambourg et son célèbre port, ses canaux, ses péniches, son étonnante Speicherstadt et désormais sa philharmonie. 10 ans de travaux, 789 millions d'euros dépensés, l'un des chantiers les plus gigantesques de l'histoire récente allemande. Mais ça y est, la philharmonie de l'Elbe est enfin terminée. Le concert d'inauguration a eu lieu hier soir en présence de la chancelière allemande Angela Merkel. Bonsoir Cyril Sauvageau en direct de Berlin.
Bonsoir.
Alors cette nouvelle philharmonie à Hambourg, Cyril, c'était un projet absolument hors norme et à tous les points de vue, hein.
Hors norme, oui, d'abord par son architecture, hein, un ancien entrepôt de briques rouges dans le port d'Hambourg, rénové, surmonté d'un toit étonnant en forme de vague. Le bâtiment tout en hauteur est superbe, mais il a fallu bien des déboires pour en arriver là. 10 ans de travaux, de retard, des problèmes techniques et un budget arrivé multiplié par 10. Pierre Demeron, du cabinet d'architectes suisse Herzog et Demeron.
Autant d'argent et de temps supplémentaires, évidemment, personne ne souhaitait que les choses se passent ainsi. Malgré tout, le projet a tenu bon grâce à l'engagement de la mairie de Hambourg. Aujourd'hui, nous sommes soulagés, car le bâtiment est conforme à nos espérances. Ce serait une catastrophe si, en plus d'avoir coûté plus cher et d'avoir été retardé, cette philharmonie ne sonnait pas aussi bien. Mais je crois que nous sommes sur la bonne voie. Je ne peux que souhaiter à cette salle un long et bel avenir.
L'Elfie, comme l'ont déjà surnommé les habitants, est appelée à devenir le symbole de Hambourg et de son port industriel en pleine rénovation. Une attraction touristique majeure pour cette métropole dynamique, hein, deuxième ville d'Allemagne, mais qui n'a pas encore le même rayonnement que Berlin ou Munich.
Et oui, et ça c'est donc pour le bâtiment, hein, Cyril, mais parlons maintenant musique avec la salle de concert qui en elle-même est aussi hors du commun.
Oui, les premiers à se réjouir sont les musiciens qui vont pouvoir travailler dans l'une des salles les plus modernes du monde. Tim Eric Winzer est violoniste de l'ensemble Resonance, une formation de musique de chambre qui aura sa résidence à la Philharmonie de l'Elbe.
C'est une étape historique, un moment très important pour Hambourg et pour toute la région. C'est aussi une joie pour nous autres musiciens, le fait d'avoir dans notre ville un chez-nous supplémentaire, un nouvel endroit pour jouer, pour rencontrer le public et pour créer de la musique. Cela donne de l'inspiration.
Les 2000 spectateurs qui ont assisté hier soir au concert d'ouverture ont pu tester l'acoustique de la grande salle qui se veut révolutionnaire. L'acousticien japonais Yasushisa Toyota a fait fabriquer 10 000 plaques de formes différentes qui recouvrent les murs selon des inclinaisons bien précises. Le public se retrouve tout autour de l'orchestre comme à la Philharmonie de Berlin qui est une référence en la matière. L'orchestre de Berlin justement sera parmi les premiers à venir se produire ici comme d'autres grandes formations, notamment le Chicago Symphony Orchestra, pour une première saison dont les billets sont déjà tous vendus.
Ça donne envie, Cyril Sauvageau, en direct de Berlin. Merci beaucoup.
Et après Hambourg, direction maintenant Budapest, Michael.
La capitale hongroise, qui a une spécialité musicale historique et pourtant souvent méconnue, c'est l'opérette, Nicolas. Vous avez bien entendu, l'opérette qui attire aujourd'hui encore un très très large public. Alors on prend les bottes fourrées et la doudoune parce que là il y a 10 cm de neige, moins 6 degrés en ce moment même à Budapest. Où vous vous trouvez, Florence Labruyère? Bonsoir.
Bonsoir Michael.
Alors vous nous emmenez, Florence, dans une rue surnommée le Broadway de Budapest et plus précisément au bien nommé théâtre de l'opérette.
Oui, et ce théâtre est plein tous les soirs, car les Hongrois sont fous d'opérettes, et notamment d'un spectacle qui s'appelle La Princesse Csárdás. Figurez-vous, Michael, ça fait 101 ans qu'on joue cette opérette à Budapest. Elle a été écrite par le compositeur Imre Kalman, et son succès ne se dément pas. Il faut réserver plusieurs semaines à l'avance.
Alors quel est le thème de cette opérette ?
Eh bien, ça raconte les amours contrariés d'un prince viennois. Il tombe amoureux d'une actrice budapestoise, une actrice qui est aussi chanteuse de cabaret, surnommée la princesse Csárdás. Les parents du prince sont furieux car ils voulaient lui faire épouser sa cousine. Mais après bien des péripéties, eh bien, le prince et la comédienne finissent par se marier.
Bon alors d'accord, conte de fées, on ne peut plus classique, c'est ça ?
Oui, un conte de fées plein d'humour. J'ai rencontré une historienne du théâtre, Anna Lacoche, et elle explique pourquoi l'opérette continue à avoir autant de succès.
Kallmann, qui a commencé à composer cette opérette en 1914, voulait écrire quelque chose de gai. La musique, il y a plein de vie, d'humour et de mélodie. L'histoire est banale, vraiment banale. Donc, ça peut survivre n'importe quel contexte social.
La princesse Csárdás se passe avant la Première Guerre mondiale. Vienne et Budapest faisaient partie du même empire. C'était un peu un âge d'or. Est-ce qu'il y a une nostalgie pour cette époque ?
Certainement. Sur scène, on peut voir les aristocrates, on peut voir un monde qui n'existe plus. L'opérette peut bien répondre à cette exigence, à cette nostalgie. Quel est le message que cette opérette nous envoie ? C'est qu'on peut croire aux contes de fées, aux miracles, à l'ascension sociale, à la richesse et au mariage et au bonheur.
Et nostalgie, quand tu nous tiens, mais quel public aujourd'hui, Florence, viens voir ce genre d'opérette.
C'est un public un peu endimanché, vous savez, avec des dames à la blouse impeccable, boutonnées jusqu'au cou, et des messieurs en costume à carreaux sans âge. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il y a toutes les générations. J'ai rencontré beaucoup de jeunes qui viennent voir la princesse Csárdás, comme Monica, elle est étudiante, elle a 25 ans.
Moi et mon copain, on connaît presque toutes les chansons de cette opérette. Ces vieux airs, je les ai souvent entendus à la maison. On les fredonnait dans ma famille. J'adore ces mélodies d'autrefois. Pourquoi est-ce que les jeunes n'aimeraient pas ça ? C'est la première fois que je viens à ce théâtre et je reviendrai sûrement.
Cette étudiante qu'on vient d'entendre adore l'opérette et c'est plutôt bon marché. Les billets les moins chers sont entre 6 et 15 euros. Et vous savez, Michael, même sous le socialisme, on n'a jamais cessé de jouer des opérettes. Sans doute parce que les camarades du comité central aimaient beaucoup ces spectacles. Et donc, la tradition se perpétue de génération en génération.
Eh bien, merci beaucoup Florence Labruyère en direct de Budapest. Et pour finir, Nicolas, une toute autre musique d'un tout autre genre, celle du...
C'est quoi ?
Oui. Alors, celle du...
Cochon ?
Du rhinocéros, Nicolas, et en l'occurrence des rhinocéros blancs de la réserve de Ulue Umfolozi au KwaZulu-Natal, autrement dit en Afrique du Sud. De grosses bébêtes observées pendant près de 2 ans par un trio de chercheurs sud-africains et allemands qui ont surtout en fait étudié et analysé les matières fécales des rhinos. Car depuis longtemps, on sait très bien que les animaux se servent de leur urine pour communiquer. Mais qu'en est-il de leur bouse ou crottin ? Réponse ? Pareil, en tout cas pour les rhinocéros, qui échangent une incroyable quantité d'informations via leur bouse. Ils signalent notamment leur sexe, leur âge et surtout, Nicolas, leur disponibilité sexuelle. Mmh. Les chercheurs ont ainsi reproduit en labo les odeurs dégagées, essence ensuite répandue dans la réserve. Résultat, quand un mâle renifle une odeur associée à un mâle intrus, il cherche aussitôt à suivre les mouvements du concurrent potentiel. Mais en découvrant une odeur de femelle, que fait-il ? Il s'attarde. Il profite de cette fragrance évocatrice d'accouplement, ce qui fait dire à nos chercheurs...
La golden shower.
Je les cite, les rhinocéros, Nicolas, se servent de leur latrine comme nous utilisons nos réseaux sociaux. Je vous laisse méditer.
Merci Mickaël, t'es beau.